Chapitre 14. Planète morte. 60. Trévis se sentait déprimé. Les quelques victoires qu'il avait remportées depuis le début de la quête n'avaient jamais été définitives. Elles n'avaient jamais servi qu'à ajourner la défaite. Et voilà qu'en regardant leur saut vers le troisième des mondes spatiaux, il avait transmis son malaise à ses compagnons. Lorsqu'enfin il prit la simple décision de dire à l'ordinateur de transférer le vaisseau en hyperespace, Pellerat se tenait, solennel, dans l'embrasure de la porte de la cabine de pilotage, et Joie était à ses côtés, légèrement en retrait. Même Phalum était là, fixant Trévis d'un œil rond, une de ses mains étreignant avec force celle de Joie. Trévis avait levé les yeux de l'ordinateur et lancé plutôt hargneux « Un vrai portrait de famille ». Mais c'était seulement son malaise qui s'exprimait. Il ordonna à l'ordinateur d'opérer le saut de manière à leur faire réintégrer l'espace à une distance un peu plus grande que nécessaire de l'étoile en question. Il eut beau se dire que c'était parce que les événements précédents lui avaient enseigné la prudence, il n'y croyait pas. Sous-jacent, il le savait, demeurait l'espoir de ressortir dans l'espace à une distance telle de l'étoile qu'il serait impossible de décider si elle était ou non dotée d'une planète habitable, ce qui lui procurerait encore quelques jours de voyage en espace normal avant d'être fixé et peut-être de se voir confronté à la mère des fêtes. Et donc, sous les regards du portrait de famille, il prit une profonde inspiration, retint son souffle, puis expira en sifflant entre ses lèvres serrées au moment d'entrer dans la machine les ultimes instructions. Par-delà une discontinuité silencieuse, le dessin des étoiles se modifia. L'écran était devenu plus vide, car il s'était porté dans une région où les étoiles étaient légèrement plus dispersées. Et là, près du centre, étincelait une étoile brillante. Trévis eut un large sourire, car c'était un peu une victoire. Après tout, le troisième groupe de coordonnées aurait pu être erroné, et il aurait pu n'y avoir aucune étoile de type G en vue. Il jeta un coup d'œil vers les trois autres et dit « Et voilà. Étoile numéro 3. Vous êtes sûr ?» demanda Joie d'une voix douce. « Regardez. Je vais basculer sur la vue équicentrée correspondante, extraite de la carte galactique de l'ordinateur. Et si cette étoile brillante disparaît, c'est qu'elle ne sera pas consignée sur la carte et sera donc celle qu'on cherche. » L'ordinateur réagit à sa commande et l'étoile s'éteignit sans prévenir. C'était comme si elle n'avait jamais existé, alors que le champ stellaire avoisinant demeurait identique, dans une sublime indifférence. « On la tient, » dit Trévis. Malgré tout, il ne lança l'étoile lointaine qu'à un peu plus de la moitié de la vitesse qu'il aurait pu sans peine maintenir. La question de la présence ou non d'une planète habitable demeurait en suspens, et il n'était pas pressé de la résoudre. Même après 3 jours d'approche, rien ne permettait de pencher d'un côté ou de l'autre. Enfin, pas tout à fait. Car en orbite autour de l'étoile, il y avait une géante gazeuse de bonne taille. Elle était très loin de celle-ci et brillait d'un éclat jaune très pâle sur sa face éclairée qu'il pouvait apercevoir de leur position comme un épais croissant. Trévis n'aimait guère son allure, mais il essaya de n'en rien montrer et prit le ton neutre d'un guide touristique. « Voilà une géante gazeuse de bonne taille, assez spectaculaire d'ailleurs. Elle possède une paire d'anneaux minces et 2 satellites de taille appréciable sont visibles pour le moment. » « La plupart des systèmes comprennent des géantes gazeuses, n'est-ce pas ?» demanda Joie. « Oui. Mais celle-ci est de grande taille. À en juger par la distance de ses satellites et leur période de révolution, cette géante est presque 2000 fois plus massive qu'une planète habitable. « Quelle différence cela fait-il ? » demanda Joie. « Ce sont toujours des géantes gazeuses, peu importe leur taille, non ?» Elles sont toujours présentes à grande distance de l'étoile autour de laquelle elles orbitent et aucune n'est habitable, à cause à la fois de leur taille et de leur éloignement. Nous n'avons qu'à rechercher plus près de l'étoile une planète habitable. Trévis hésita, puis décida de jouer carte sur table. « Le problème, commença-t-il, et que les géantes gazeuses ont tendance à nettoyer un certain volume d'espace autour d'elles. La matière qu'elles n'absorbent pas dans leur structure même s'amasse pour former des corps de taille non négligeable qui vont former leur système de satellites, lesquels ensuite empêchent toute accrétion jusqu'à une distance considérable, de sorte que plus la géante gazeuse est grande, et plus elle a de chances d'être la seule planète de taille notable d'un système solaire donné. Il n'y aura que la géante gazeuse et des astéroïdes.
Vous voulez dire qu'il n'y a pas de planète habitable ici ?
Plus grande est la géante gazeuse, moins on a de chances de trouver une planète habitable. Et cette géante-là est si massive que c'est pratiquement une étoile naine.
Pourrions-nous la voir ?
Demanda Pellorat. Tous trois fixaient maintenant l'écran. Phalum était dans la chambre de joie avec ses bouquins. L'image s'agrandit jusqu'à ce que le croissant emplit l'écran. Traversant ce croissant légèrement au-dessus du centre, apparaissait un mince trait sombre, l'ombre du système d'anneaux, lui-même visible à brève distance au-delà de la surface, sous la forme d'une arche scintillante qui pénétrait légèrement la face obscure avant de disparaître à son tour dans l'ombre. Trévise poursuivit. L'axe de rotation de la planète est incliné d'environ 35 degrés sur son plan orbital, et l'anneau se trouve dans le plan équatorial, bien entendu, de sorte que la lumière de l'étoile vient de par en dessous, à ce point de son orbite, et projette l'ombre de l'anneau bien au-dessus de l'équateur. Pellorat contemplait le spectacle, fasciné.
« Ce sont des anneaux fins ?»«
Plutôt au-dessus de la taille moyenne, en fait, » observa Trévise.
S'il faut en croire la légende, les anneaux entourant une géante gazeuse du système planétaire de la Terre sont beaucoup plus larges, plus brillants et plus complexes que celui-ci. Ils éclipsent la géante gazeuse par comparaison.
Ça ne me surprend pas, dit Trévise. Lorsqu'une histoire est colportée d'une personne à l'autre durant des milliers d'années, croyez-vous qu'elle ne va pas s'amplifier? Joie les interrompit.
C'est superbe. Quand on regarde le croissant, on dirait qu'il se tortille et serpente sous vos yeux.
Turbulence atmosphérique, expliqua Trévise. En général, on les voit apparaître plus nettement à condition de choisir la longueur d'onde convenable. Attendez voir que j'essaie. Il posa les mains sur la console, ordonnant à l'ordinateur de parcourir le spectre et de s'arrêter à la longueur d'onde appropriée. Le croissant, à peine éclairée, s'illumina d'une débauche de couleurs qui variait si rapidement qu'elles auraient sidéré l'œil qui eût voulu les suivre. Finalement, l'image se stabilisa en rouge-orangé, et à l'intérieur du croissant apparurent nettement des spirales qui s'enroulaient et se déroulaient au fur et à mesure de leur progression.
« Incroyable !» murmura Pellorat. « Ravissant !»
dit Joie. « Parfaitement croyable. » songea Trévise, amer. Et tout sauf ravissant. Ni Pellorat, ni Joie, tout à la beauté du spectacle, ne se préoccupaient en effet de songer que la planète qu'ils admiraient diminuait leurs chances de lever le mystère que Trévise essayait de résoudre. Mais enfin, était-ce leur problème? L'un comme l'autre se satisfaisait que la décision de Trévise fût correcte, et il l'accompagnait dans sa quête de certitude sans y attacher de lien émotionnel. Il était vain de le leur reprocher. Il poursuivit. La face obscure paraît sombre, mais si nos yeux étaient sensibles aux fréquences juste en deçà des longueurs d'ondes habituelles, elle nous apparaîtrait d'un incarnat sombre, profond, intense. La planète déverse dans l'espace des rayons infrarouges en grande quantité, parce qu'elle est assez massive pour être presque chauffée au rouge. C'est plus qu'une géante gazeuse. C'est une proto-étoile. Il marqua un temps d'arrêt et reprit. Et maintenant, écartons cet objet de notre esprit et cherchons la planète habitable qui pourrait éventuellement exister.
Peut-être existe-t-elle bien ?
Dit Pellorat en souriant.
N'abandonnez pas, vieux camarade.
Je n'ai pas abandonné, dit Trévise sans grande conviction. La formation des planètes est une affaire trop compliquée pour obéir à des règles simples. Nous ne parlons qu'en termes de probabilité. Avec un tel monstre dans l'espace, les probabilités décroissent, mais pas jusqu'à zéro. Joie intervint.
Pourquoi ne pas voir plutôt les choses ainsi? Puisque les deux premiers ensembles de coordonnées vous ont donné une planète habitable de spatiaux, eh bien, le troisième, qui vous a déjà offert une étoile appropriée, devrait également vous offrir une planète habitable. Pourquoi parler de probabilité?
J'espère bien que vous avez raison, répondit Trévise, qui ne se sentait pas du tout consolé. À présent, nous allons sortir du plan de l'écliptique et nous diriger vers l'étoile. À peine en avait-il évoqué l'intention, que l'ordinateur prit en charge la manœuvre. Il se cala dans le siège du pilote et jugea une fois encore que le seul défaut inhérent à la conduite d'un vaisseau gravitique aussi évolué était qu'il ne pourrait jamais, jamais plus piloter un autre type d'appareil. Pourrait-il supporter encore d'effectuer lui-même les calculs? Supporter encore d'avoir à tenir compte de l'accélération en la limitant à un niveau raisonnable? Selon toute vraisemblance, il l'oublierait et lancerait toute la puissance jusqu'à ce que tout le monde à bord soit aplati contre une cloison. Conclusion, il continuerait à piloter ce vaisseau ou éventuellement un autre exactement semblable, et encore s'il pouvait supporter un tel changement, jusqu'au bout. Et parce qu'il voulait se distraire l'esprit de la question de savoir s'il y avait ou non une planète habitable, il se mit à songer au fait qu'il avait demandé au vaisseau de se déplacer pour aborder le plan de l'écliptique par le haut plutôt que par le bas. Si l'on éliminait les motifs précis de passer en dessous, les pilotes choisissaient presque toujours d'arriver par le dessus. Pourquoi? Tant qu'à faire, pourquoi d'ailleurs tenir absolument à considérer une direction comme le haut et l'autre le bas? Vu la symétrie de l'espace, cela relevait de la pure convention. Malgré tout, il était toujours conscient de la direction dans laquelle une planète observée tournait autour de son axe et orbitait autour de son étoile. Lorsque les deux mouvements étaient contraires à celui des aiguilles d'une montre, alors la direction du bras levé indiquait le nord et celle des pieds le sud. Et dans toute la galaxie, le nord était en haut et le sud en bas. C'était une pure convention qui se perdait dans les brumes de l'Antiquité et qui était servilement suivie. Il suffisait de contempler une carte familière avec le sud orienté vers le haut pour ne pas la reconnaître. Il fallait la retourner pour qu'elle devînt lisible. Et toute chose étant égale par ailleurs, on la tournait vers le nord et le haut. Trévise songea à une bataille menée 3 siècles auparavant par Belrioz, le général d'Empire, qui avait fait basculer son escadre sous le plan de l'écliptique à un moment crucial et prit ainsi par surprise une formation ennemie. D'aucuns avaient crié à la manœuvre déloyale, les perdants, bien entendu. Pour être aussi forte, être ancrée depuis si longtemps, une convention devait être née sur Terre, ce qui ramena brusquement Trévise au problème de la planète habitable. Pellorat et Joie continuaient de contempler la géante gazeuse qui tournait sur l'écran en une lente, très lente pirouette arrière. La portion éclairée s'étendit, et comme Trévise avait maintenu le spectre dans les longueurs d'onde du rouge orangé, les entrelacs des tempêtes à sa surface devinrent encore plus déments, plus hypnotiques. Sur ces entrefaites, Fallum pénétra dans la cabine et Joie jugea qu'il était temps pour l'enfant de faire un somme. Pour elle aussi, d'ailleurs. Trévise se tourna vers Pellorat, qui était resté, et lui dit « Je vais devoir abandonner la géante gazeuse, Janoff. Je veux que l'ordinateur se concentre sur la recherche d'une signature gravitationnelle de taille adéquate. »«
Bien sûr, mon ami, » dit Pellorat. Mais l'affaire était plus compliquée que ça.
Ce n'était pas simplement une signature de taille adéquate que devait rechercher l'ordinateur. Il fallait qu'elle eût la taille, mais aussi la distance convenable. Il s'écoulerait encore plusieurs jours avant que Trévise ait une certitude.